Bonjour. Alors, aujourd'hui, on plonge dans un sujet crucial pour le Maroc, l'emploi.
Bonjour, oui, un sujet complexe.
On voit une économie qui bouge, de grands projets, une certaine croissance affichée, mais en même temps un constat un peu troublant.
Le pays peine à créer assez de boulot, c'est ça?
Exactement, surtout pour les jeunes. C'est ce paradoxe qui est au cœur de l'actualité sociale marocaine. L'emploi, c'est vraiment le thermomètre social.
Tout à fait. Et pour décortiquer ça, on va s'appuyer sur un dossier très intéressant d'EcoBusiness.
C'est ça.
Il compile en fait les analyses d'un côté de l'Institut royal des études stratégiques, l'IRES,
D'accord.
et de l'autre les propositions d'un groupe d'économistes, l'Alliance des économistes istiklaliens, la RAI.
Donc l'idée, c'est de comprendre pourquoi cette croissance ne se traduit pas plus en emploi et puis quelles pistes sont sur la table.
C'est exactement ça, comprendre le pourquoi du comment et les solutions envisagées.
Alors, attaquons directement avec ce constat central, presque déroutant, que les sources mettent vraiment en avant. Cette croissance économique qui, finalement, crée de moins en moins d'emplois. Les chiffres de l'IRES sont assez dingues, non?
Ah oui, ils sont saisissants, franchement. Au début des années 2000, il faut s'imaginer, un point de croissance du PIB, hop, ça donnait environ 30 000 emplois nets.
Pas mal.
Déjà pas mal, oui. Mais 10 ans plus tard, c'était divisé par deux, 15 000.
Ah oui, déjà une chute.
Mais là où ça devient vraiment inquiétant, c'est que depuis 2016, la tendance s'est carrément inversée. En moyenne, sur ces années-là, le Maroc a perdu 11 000 emplois par an. D'abord, les secteurs qui tirent la croissance à l'export.
Oui.
Les phosphates, l'automobile, l'aéronautique, ce sont des secteurs qu'on dit très capitalistiques.
C'est-à-dire.
Ça veut dire qu'ils demandent d'énormes investissements en machines, en technologie, en capital, quoi. Mais finalement, assez peu de main-d'œuvre par rapport à la richesse qu'ils créent.
D'accord. Donc on produit de la valeur, mais ça ne se traduit pas massivement en fiches de paie, si on veut.
C'est un peu ça. Ça ne ruisselle pas assez en emploi direct.
Et l'agriculture, dans tout ça, ça a longtemps été le réservoir d'emploi du Maroc, non?
Ça l'est toujours en volume. C'est le premier employeur. Mais attention, c'est un secteur qui subit une hémorragie d'emplois absolument massive.
Ah oui?
Les sources parlent de presque 950 000 emplois perdus rien qu'entre 2018 et 2023.
C'est énorme. Presque 1 million.
C'est colossal. Alors, il y a la modernisation technique qui joue un peu, bien sûr, mais le gros problème, c'est la vulnérabilité au changement climatique.
La sécheresse.
Exactement. Les sécheresses sont de plus en plus dures, de plus en plus fréquentes. Ça fragilise tout le secteur. Ça détruit les emplois saisonniers, les emplois précaires.
D'accord. Et un autre point qui revient souvent, c'est la structure même du tissu économique, très dominée par les petites, voire très petites entreprises.
Tout à fait. Les TPE-PME, elles représentent 99% des entreprises au Maroc. Sur le papier, on se dit oui, potentiel énorme.
Oui, on imagine un vivier d'emplois.
Voilà. Sauf que dans les faits, ben, ces petites boîtes, elles ont du mal à grandir. Elles peinent à innover, à monter en gamme.
Et donc à créer des emplois.
Surtout des emplois formels, durables, en nombre suffisant. Le chiffre cité dans les sources est parlant. Ces PME, en 20 ans, elles ont créé seulement 1,1 million d'emplois formels.
En 20 ans, ça paraît très peu vu leur nombre.
C'est très faible, oui. Ça montre qu'il y a un vrai blocage à ce niveau-là.
Justement, ces blocages, est-ce que les sources les identifient clairement? Pourquoi ces PME ne décollent pas plus?
Oui, les freins classiques sont bien là. D'abord, l'accès au financement. Les banques sont souvent frileuses.
Le crédit, quoi.
Le crédit, exactement. Ensuite, la complexité administrative, la paperasse, ça décourage beaucoup d'entrepreneurs. Il y a aussi un manque de culture de l'innovation, de prise de risque. Et puis, l'écosystème autour, le conseil, la formation, la recherche et développement, il est encore un peu faible ou alors très concentré.
Où ça?
Principalement Casa Rabat.
C'est ça.
L'axe Casa Rabat-Tanger capte l'essentiel. Donc, pour une TPE-PME en région, c'est plus compliqué.
Et il y avait aussi cette question de l'intégration locale des grandes industries, non, celles qui exportent.
C'est le dernier gros facteur structurel, oui. L'exemple type, c'est l'automobile. C'est un succès. Le Maroc assemble, exporte beaucoup de voitures.
Oui.
Mais une grosse partie des pièces, surtout celles à forte valeur ajoutée, les composants électroniques, etc., elle est importée.
On ne les fabrique pas sur place?
PME marocaines, elle reste limitée.
Du coup, moins d'emplois indirects créés localement.
Exactement. Et moins de valeur ajoutée captée au Maroc.
Bon, le tableau est complexe. Une croissance tirée par des secteurs peu gourmands en main-d'œuvre, une agriculture fragilisée, des PME qui peinent à embaucher. Face à ça, quelle est la première grande idée mise en avant par l'Alliance des économistes Istiklalien, l'AEI ?
Alors, leur premier cheval de bataille, c'est... Il faut un diagnostic beaucoup, beaucoup plus précis.
Et transparent.
Qu'est-ce qu'ils entendent par là? Leur idée phare, c'est de lancer une immense cartographie nationale.
Cartographier quoi?
Les compétences qui existent aujourd'hui. Secteur par secteur, région par région.
D'accord. Savoir qui sait faire quoi et où.
C'est ça. Et en parallèle, cartographier les besoins futurs des entreprises, anticiper les mutations économiques, technologiques. L'objectif, c'est d'arrêter de subir.
De pouvoir enfin adapter l'offre de formation à la demande réelle.
Exactement. D'avoir une vision claire pour orienter les formations plutôt que de former un peu à l'aveugle.
Et ça nous amène directement à un des points les plus sensibles, un des angles morts du marché du travail, l'inadéquation entre la formation et l'emploi. Surtout pour les jeunes diplômés.
Ah oui, là c'est douloureux.
Les chiffres du chômage des jeunes, franchement, ça fait froid dans le dos.
C'est clair. On parle d'un taux de chômage qui dépasse les 36% chez les 15-24 ans.
Plus d'un tiers.
Oui. Et si on regarde les diplômés du supérieur, c'est presque 1 sur 5 qui ne trouvent pas de boulot. Le diplôme, ce n'est plus du tout le sésame que ça a pu être.
C'est un gâchis terrible.
Humainement, économiquement, c'est colossal.
Et les sources, elles expliquent pourquoi cette inadéquation? C'est juste que les jeunes choisissent les mauvaises filières.
C'est plus complexe que ça. Il y a bien sûr un problème quantitatif. Trop de diplômés dans certaines filières, comme les lettres, le droit...
où les débouchés sont saturés.
Voilà. Et en même temps, une pénurie criante dans des domaines techniques, scientifiques, dont l'économie a désespérément besoin. L'industrie, le numérique, la santé, la logistique.
Mais il n'y a pas que ça.
Non. Il y a aussi un problème qualitatif. Les employeurs se plaignent souvent du manque de soft skills.
C'est-à-dire les compétences comportementales.
Exactement. Communication, autonomie, travail en équipe, résolution de problèmes. Et puis, le manque de pont entre l'université et l'entreprise.
Les stages, l'alternance.
Oui, des stages de qualité, c'est encore trop rare. L'alternance, ça se développe, mais c'est encore limité. Du coup, les jeunes arrivent sur le marché du travail avec peu d'expérience concrète.
On imagine la frustration que ça engendre chez ces jeunes.
Immense. Démotivation, sentiment d'injustice.
Et ça doit alimenter aussi le phénomène de la fuite des cerveaux, j'imagine. Hein ?
Directement. C'est une des conséquences logiques et dramatiques. Quand on est jeune, qualifié, et qu'on ne trouve pas sa place dans son propre pays, bah, la tentation de partir est très forte.
Les sources donnent des chiffres là-dessus ?
Oui, et ils sont préoccupants. On parle de près de 20% des ingénieurs formés au Maroc qui quitteraient le pays chaque année.
1 sur 5 ?
C'est énorme. Et c'est pareil pour les médecins. Beaucoup sont attirés par l'Europe, la France notamment. C'est une vraie hémorragie de talents.
Une hémorragie qui coûte cher au pays, on s'en doute.
Extrêmement cher. D'abord, c'est tout l'investissement public dans leur formation qui part en fumée, en quelque sorte.
Oui.
Ensuite, c'est un manque à gagner pour l'économie pays. Moins de productivité, moins d'impôts payés au Maroc. Et surtout, ça affaiblit des services essentiels.
Les hôpitaux, par exemple.
Oui, surtout dans les régions un peu éloignées des grands centres. Ça affaiblit aussi les entreprises innovantes, les start-up technologiques, qui manquent d'experts.
Et les causes de cette fuite, c'est quoi? Juste les salaires?
Les salaires jouent, bien sûr. Ils sont souvent jugés insuffisants. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi les conditions de travail, le manque de moyens, la bureaucratie parfois pesante.
Les perspectives de carrière aussi, peut-être?
Des perspectives qui peuvent sembler limitées. Et puis, il y a la recherche d'une meilleure qualité de vie globale, d'un environnement plus porteur, d'une plus grande reconnaissance aussi.
Alors, face à ce double défi, le chômage des jeunes qualifiés et la fuite des talents, qu'est-ce que l'AEI propose concrètement?
Alors, en plus de leur idée de cartographie des compétences dont on a parlé,
oui.
Ils suggèrent de mettre le paquet sur des formations courtes, très ciblées, très professionnalisantes, genre 6 mois, 1 an maximum.
Pour requalifier vite vers les métiers qui recrutent.
C'est l'idée. Requalifier rapidement vers les secteurs en tension. Ils insistent aussi beaucoup sur la nécessité de généraliser l'alternance pour que les jeunes mettent vraiment un pied dans l'entreprise pendant leurs études.
Et ils parlent des grands événements à venir ?
Oui, la Cannes 2000 Landsat, la Coupe du Monde 2030. Ils disent voilà une occasion unique d'anticiper les besoins massifs et temporaires.
Dans quel domaine ?
La sécurité, l'événementiel, l'audiovisuel, l'hôtellerie-restauration, la logistique. Il faut former dès maintenant pour être prêt.
Et pour retenir les talents, pour freiner l'hémorragie ?
Là, l'idée, c'est de rendre le Maroc plus attractif. Comment ? En créant des filières d'excellence bien identifiées, où il y a de l'avenir.
Comme quoi, par exemple ?
Il cite l'économie du care, tout ce qui est soins et services à la personne, avec le vieillissement de la population, l'économie bleue, liée aux ressources marines, le numérique, bien sûr.
Mieux valoriser la recherche aussi.
Oui, absolument. Mieux valoriser la R&D, offrir des incitations spécifiques pour encourager la diaspora à revenir, fiscale, aide au logement, soutien à l'entrepreneuriat.
Et surtout, améliorer les conditions de travail générales.
C'est la base. Salaire, environnement de travail, perspective. Sans ça, les autres mesures risquent d'être insuffisantes.
Un autre potentiel énorme, et là c'est un euphémisme, qui est largement sous-exploité, c'est celui des femmes.
Ah oui.
Les sources soulignent un paradoxe assez incroyable à ce niveau-là.
C'est vrai. Le Maroc a fait d'énormes progrès pour l'éducation des filles. Elles réussissent même souvent mieux que les garçons à l'école, jusqu'à l'université.
Et pourtant,
une fois diplômées, ou même avant, elles restent massivement en dehors du marché du travail formel. Le taux d'activité des femmes au Maroc, il est parmi les plus bas du monde, à peine 20%.
20%. Ça veut dire que 4 femmes sur 5 sont hors du marché du travail.
En gros, oui. C'est comme si l'économie marocaine fonctionnait délibérément sur une seule jambe. C'est un gâchis monumental de potentiel.
Et comment on explique ce taux si bas ? C'est quoi les obstacles ?
C'est un mélange de facteurs, c'est ça qui est compliqué. Il y a d'abord des facteurs culturels, sociaux, qui sont encore très présents.
Surtout en milieu rural.
Oui, particulièrement en milieu rural, où le rôle de la femme est encore souvent cantonné à la sphère domestique, à la famille.
Il y a des freins plus institutionnels aussi.
Bien sûr, le manque criant de crèches, de structures de garde d'enfants qui soient accessibles et abordables, c'est un frein majeur pour les mères. Le congé parentalité aussi, qui reste limité.
Les opportunités d'emploi elles-mêmes sont peut-être moins nombreuses pour les femmes dans certaines régions.
Tout à fait. Les disparités territoriales jouent à plein. En dehors de l'agriculture, trouver un emploi formel pour une femme dans une région reculée, c'est très difficile.
Et puis, il y a les stéréotypes au travail.
Oui, les stéréotypes à l'embauche, et puis le fameux plafond de verre. L'accès aux postes à responsabilité reste compliqué pour les femmes.
Est-ce que les sources chiffrent le coût économique de cette situation, ce que le Maroc perd en n'intégrant pas mieux les femmes ?
Oui, et les chiffres donnent le vertige. Les estimations qui sont évoquées, c'est que si le Maroc arrivait à aligner le taux d'activité des femmes sur celui des hommes...
Ce qui est un objectif très ambitieux.
Très ambitieux, on est d'accord. Mais si on y arrivait, ça pourrait augmenter le PIB marocain de 20 à 30% à terme.
20 à 30%, c'est énorme.
C'est un levier de croissance absolument considérable. Et potentiellement un levier pour une croissance plus riche en emplois, ce qui nous ramène à notre problème de départ.
Donc, libérer le potentiel économique des femmes, ça pourrait être une partie de la solution au grand paradoxe marocain. Qu'est-ce que l'ASI propose sur ce front-là ?
Les idées tournent beaucoup autour de la flexibilité et du soutien concret. D'abord, développer le temps partiel choisi, le télétravail, pour mieux concilier vie pro et vie perso.
Et les crèches ?
Ah, ça c'est central. Investir massivement dans des crèches subventionnées ou des systèmes de garde alternatifs pour lever ce frein majeur.
Des incitations pour les entreprises ?
Oui, des incitations fiscales pour les boîtes qui embauchent des femmes, qui les forment, qui les promeuvent à des postes de responsabilité. Et bien sûr, il faut une vraie volonté politique pour lutter contre les discriminations salariales et professionnelles. L'égalité salariale, c'est la base.
Passons à un autre défi structurel énorme, le secteur informel. Les chiffres sont fous là aussi.
Oui, on parle de presque 60% de l'emploi total. 60%. Et environ 30% du PIB qui échappe complètement au radar officiel.
C'est gigantesque. On comprend que ça joue un rôle d'amortisseur social.
Indéniablement. Ça offre une source de revenus, de subsistance, à des millions de personnes qui sinon n'auraient rien, qui ne trouvent pas leur place dans le formel. Donc oui, c'est une soupape de sécurité.
Mais c'est un peu un emplâtre sur une jambe de bois, non ? Quels sont les inconvénients à long terme ?
Ils sont nombreux et graves. D'abord, pour les travailleurs eux-mêmes. Aucune protection sociale. Pas de couverture maladie, pas de chômage, pas de retraite. C'est la précarité permanente.
Et pour l'État ?
Pour l'État, ce sont des pertes fiscales colossales. Moins de recettes, donc moins de capacité à investir dans les écoles, les hôpitaux, les infrastructures.
Et pour les entreprises qui, elles, sont dans le formel ?
Pour elles, c'est une concurrence déloyale terrible. Difficile de rivaliser avec quelqu'un qui ne paye ni charges ni impôts. Ça freine leur croissance, leur investissement.
Et globalement, ça tire l'économie vers le bas ?
Oui, ça entrave la modernisation, l'innovation, l'amélioration de la productivité générale. On ne peut pas construire une économie vraiment compétitive et moderne avec une part aussi énorme d'informel.
Alors, comment on fait est-ce qu'il y a des pistes pour intégrer progressivement cette économie sans non plus casser brutalement cette soupape sociale? Les sources évoquent des exemples ailleurs.
Oui, l'exemple du Brésil revient souvent. Ils ont créé un statut très simplifié, le micro-entrepreneur individuel. Ça a permis de faire rentrer dans le formel des millions de petits travailleurs indépendants très facilement.
Et l'AIV propose quelque chose de similaire pour le Maroc?
Oui, il s'en inspire beaucoup. L'idée, c'est de créer des statuts très très simples, avec une fiscalité minimale au début qui augmente progressivement avec le chiffre d'affaires.
Pour rendre la formalisation attractive ou au moins pas trop coûteuse.
C'est ça. Faciliter aussi l'accès au microcrédit, à des garanties, pour que ces petites activités puissent se développer un peu. Encourager des contrats de travail plus souples aussi, temps partiel, saisonnier, adaptés à ces activités.
Et la digitalisation?
Oui, c'est un point clé. Promouvoir les paiements électroniques, le mobile money, pour réduire la circulation de l'argent liquide, qui est vraiment le carburant de l'informel. Moins de cash, plus de traçabilité.
Revenons à l'instant sur l'agriculture. On a dit qu'elle perdait beaucoup d'emplois à cause du climat, mais elle reste un employeur majeur en milieu rural. Quel avenir pour ce secteur, selon les analyses?
C'est un vrai casse-tête. Le dilemme, c'est est-ce qu'on essaye de maintenir à tout prix son rôle d'employeur de masse, quitte à freiner sa modernisation?
Ou est-ce qu'on accélère la modernisation pour le rendre plus productif, plus résilient au climat, mais au risque de détruire encore plus d'emplois peu qualifiés?
C'est ça. L'AEIL, elle, suggère une troisième voie. Ne pas opposer les deux.
C'est-à-dire, comment on fait?
L'idée, c'est d'investir dans une agriculture qui soit à la fois plus moderne et plus durable. Gestion de l'eau, bien sûr, c'est crucial. Diversification vers des cultures moins gourmandes en eau, agriculture bio.
Mais ça ne crée pas forcément plus d'emplois.
Pas forcément, non. C'est pour ça qu'il faut, en parallèle, créer d'autres sources de revenus dans les campagnes. Diversifier l'économie rurale.
Par exemple?
Par exemple, développer des petites zones d'activité pour transformer les produits agricoles sur place, faire de l'agro-industrie locale. Miser aussi sur le tourisme rural, l'agrotourisme, qui a un potentiel énorme au Maroc.
Et la formation des jeunes ruraux?
C'est essentiel. Il faut les former non seulement aux nouveaux métiers de l'agriculture moderne, mais aussi à d'autres choses. Aux métiers du numérique, par exemple, qui peuvent souvent se faire à distance. Ou aux métiers des services. L'idée, c'est vraiment de créer une économie rurale plus pluriale, moins dépendante uniquement de l'agriculture traditionnelle.
Cette diversification, elle est d'autant plus cruciale qu'il y a ces énormes disparités territoriales, dont on a peu parlé, mais qui sont un autre point noir majeur.
Oui, la fameuse fracture géographique. C'est flagrant. Le taux de chômage, il peut aller du simple au triple, voire plus, entre une région comme Marrakech-Safi et les régions du sud ou de l'oriental.
Et tout se concentre sur la côte atlantique?
Essentiellement, oui. L'axe Tanger-Rabat-Casablanca aspire l'essentiel des investissements, des infrastructures, des emplois qualifiés. Les régions de l'intérieur, les régions du sud, elles se sentent souvent comme le Maroc utile, pour reprendre une expression parfois entendue. C'est un vrai problème de cohésion nationale.
Les causes, on les connaît un peu. Manque d'infrastructures de base, routes, internet, tissu productif très faible, offre de formation pas adaptée aux besoins locaux, faible attractivité pour les investisseurs privés.
C'est tout ça, oui.
Alors, comment l'AEI propose de rééquilibrer un peu la balance, de lutter contre cette concentration?
Il plaide pour une politique de développement régional beaucoup plus forte, plus volontariste, avec des outils concrets.
Comme quoi?
Par exemple, créer des fonds d'investissement régionaux, des EFIR, qui seraient dédiés spécifiquement au développement économique des régions les plus en retard. Mobiliser le foncier public, les terrains de l'État, à des prix très attractifs, pour inciter les entreprises à s'installer en dehors des grands pôles.
Et miser sur les spécialisations régionales?
Exactement. Créer des pôles d'excellence régionaux, mais basés sur les vrais atouts de chaque territoire. Le tourisme ici, les énergies renouvelables là, l'agro-industrie ailleurs. Et surtout, point très important, donner plus d'autonomie aux régions.
Plus de pouvoir de décision économique localement?
Oui, plus d'autonomie économique et décisionnelle. Il faut absolument rompre avec cette hypercentralisation qui a montré ses limites.
Bon, projetons-nous un peu vers l'avenir maintenant. L'intelligence artificielle, l'IA, on en parle partout. C'est souvent présenté comme une menace terrible pour l'emploi. Est-ce que c'est la vision qui ressort des sources pour le Maroc?
Il y a une conscience des risques, oui, bien sûr. L'automatisation, ça va forcément menacer certains emplois, surtout les tâches répétitives.
Dans quel secteur, par exemple?
On pense au textile, à certains segments de l'offshoring, comme les centres d'appel, ou même à certaines tâches administratives de base. Ça, c'est une réalité.
Mais ce n'est pas que négatif.
Non, et c'est là que les sources insistent. Elles mettent surtout l'accent sur les opportunités potentielles. Et elles pourraient être considérables si le Maroc arrive à bien anticiper, à bien négocier ce virage.
Quelles sont ces opportunités en particulier?
Alors, il y a tout ce qui est lié à la transition écologique et à la transition numérique. C'est vraiment les deux grands moteurs potentiels.
Des emplois verts.
Oui. Les sources citent même une estimation. Plus de 300 000 emplois verts potentiels d'ici 2030 au Maroc.
Ah oui, quand même. Dans quoi?
Les énergies renouvelables, bien sûr, où le Maroc a un potentiel énorme. L'efficacité énergétique dans le bâtiment, l'industrie, la gestion de l'eau qui devient un enjeu vital, l'économie circulaire, le recyclage.
Et le numérique?
Là aussi, c'est en plein boom. La cybersécurité, l'analyse de données, le développement de solutions basées sur l'IA. Il y a une demande énorme de compétences.
Et il y a d'autres secteurs porteurs?
Oui. Les sources mentionnent aussi tout ce qu'on appelle l'économie du care, les services à la personne, la santé qui va exploser avec le vieillissement de la population, et la silver economy, les services dédiés aux seniors. L'IA, d'ailleurs, peut aussi être un outil formidable pour améliorer la productivité et créer de nouveaux services dans plein de domaines.
Donc, le grand enjeu, c'est de préparer cette transition, de former les gens.
C'est exactement ça. L'EAI martèle ce point. Il faut former, former, former. Massivement, aux compétences du futur, les compétences numériques, les compétences vertes, mais aussi les compétences relationnelles, créatives, que l'IA ne remplacera pas.
Et soutenir les nouvelles filières.
Oui, soutenir activement le développement de l'économie circulaire, de l'économie du care, promouvoir aussi l'entrepreneuriat local dans le numérique. Il propose même de créer des start-up stations régionales, des incubateurs pour aider les jeunes pousses locales, et utiliser la commande publique pour favoriser les solutions made in Morocco.
Ce qui nous ramène aux PME et aux start-up. On a dit que c'était un peu le maillon faible, mais qu'elles étaient cruciales pour créer de l'emploi formel. Comment on les fait enfin décoller, ces PME?
Ben, les propositions de l'AEI, elles visent justement à faire sauter les verrous qu'on a identifiés tout à l'heure.
La simplification administrative.
Radical. Grâce au numérique, à des guichets uniques qui fonctionnent vraiment, qui soient efficaces, fini la paperasse interminable.
Le financement?
Un accès beaucoup, beaucoup plus facile, surtout pour démarrer et pour grandir. Ça passe par des garanties de l'État, par le développement du capital risque pour les projets innovants. Il faut que l'argent circule vers les PME.
Et l'innovation aussi?
Un soutien beaucoup plus fort, avec des liens plus étroits entre les universités, les centres de recherche et les entreprises. Que la recherche débouche sur des produits, des services concrets.
Et la commande publique, vous disiez?
Oui, une commande publique, les achats de l'État, des collectivités qui soient systématiquement orientées pour favoriser les PME marocaines, le Made in Morocco. Ça peut être un levier énorme pour leur donner des marchés, de la visibilité. L'idée générale, c'est vraiment de créer un écosystème où les PME peuvent enfin respirer, grandir et donc embaucher massivement.
Bon, si on essaie de synthétiser un peu tout ça, ce qui ressort de ces sources, c'est d'un côté un diagnostic assez lucide posé par l'IRES sur les raisons profondes de ce paradoxe marocain, une croissance qui ne crée pas assez d'emplois.
Oui, un diagnostic sans complaisance, hein, sur les problèmes structurels.
Et de l'autre côté, des propositions assez ambitieuses, assez audacieuses même, de l'AEI pour essayer de renverser la vapeur. Des propositions qui touchent à tout finalement.
C'est ça. Formation, place des femmes, secteur informel, développement des régions, soutien aux PME, anticipation des nouvelles filières comme le vert ou le numérique. C'est vraiment une approche globale.
Le message clé, c'est qu'on ne peut plus juste attendre que la croissance fasse le boulot, quoi.
C'est exactement ça. Le message qui ressort, c'est miser uniquement sur la croissance macroéconomique en espérant que l'emploi suive mécaniquement, ça ne marche plus. Ou ça ne marche pas assez. Il faut une action volontariste, structurelle, multidimensionnelle.
Les sources utilisent même un slogan, non?
Oui, un slogan assez direct. Non, on n'a pas tout essayé. C'est une façon de dire qu'il y a encore des marges de manœuvre importantes, qu'il y a des choses à tenter si la volonté politique suit.
Et les sources insistent sur l'urgence d'agir.
Oui, beaucoup. Parce que le statu quo, avec ce chômage très élevé, surtout chez les jeunes diplômés, cette frustration qui monte, ce n'est socialement pas tenable à long terme. Il y a un vrai risque de fracture. L'heure des choix a sonné, disent-ils en substance.
C'est vrai que comprendre toutes ces dynamiques complexes, pourquoi la formation ne colle pas toujours à l'emploi, le poids énorme de l'informel, le besoin crucial d'inclure les femmes et de développer les territoires, la nécessité de garder les talents et de booster les PME, ben c'est essentiel pour décrypter l'actualité économique et sociale du Maroc et pour saisir les enjeux de son avenir.
Tout à fait. Ça donne des clés de lecture pour comprendre les débats sur les réformes, sur le nouveau modèle de développement. Ça permet de voir sur quel levier le pays pourrait vraiment agir pour enfin traduire son potentiel de croissance en un développement qui profite à tous et qui soit surtout beaucoup plus riche en emplois décents.
Et pour finir, peut-être une dernière pensée, une question que ces analyses soulèvent un peu en creux. On parle beaucoup des grands événements sportifs qui arrivent, la CAN 2025 et surtout la Coupe du Monde 2030, co-organisée avec l'Espagne et le Portugal.
Oui, c'est présenté comme une opportunité formidable pour l'emploi.
Exactement. Mais la question qui reste un peu en suspens, c'est comment faire en sorte que ces grands événements ne soient pas juste une parenthèse, une bulle d'emploi temporaire, souvent peu qualifiée dans le BTP ou l'hôtellerie, qui disparaît une fois les projecteurs éteints.
Bonne question.
Comment s'assurer que ce soit un vrai accélérateur pour mettre en œuvre durablement les réformes structurelles dont on vient de parler ? La formation ciblée, l'intégration des PME locales dans les énormes marchés publics que ça va générer, le développement des infrastructures dans les régions qui vont accueillir des matchs.
Pour qu'il y ait un héritage tangible pour l'emploi, au-delà de l'événement lui-même.
C'est ça. Pour que ça serve vraiment de levier pour transformer l'économie et le marché du travail en profondeur. C'est peut-être là le véritable enjeu. Le vrai test de la volonté de réforme.